Super.
Yes, du coup, bienvenue dans notre. Comment il s'appelle déjà notre nom? Il s'appelle
Détour en détente sonore.
C'est
donc
ça.
Donc le van de Détour en détente sonore.
Donc là, on est dans ce van customisé,
complètement bien décoré, qui est magnifique.
Et donc voilà, bienvenue dans cet espace qui est prévu effectivement pour des petites interviews comme on voulait le faire. Alors quel stand gères-tu aujourd'hui, avec quel collectif?
Alors moi, ce week-end, je suis sur le stand climat du Village des Possibles à Esperanza. Et sur le stand climat, on est en fait quatre associations à se partager le lieu. On a, donc moi je fais partie des Brigades d'Action Paysanne, on a également le CNCD qui est présent. On a les Amis de la Terre et le collectif Antipub. Pour parler aussi notamment, je fais un peu leur pub à eux vu qu'ils sont pas là pour l'interview. La pub pour le gros projet contre Alibaba, la vente d'Alibaba sur Liège. Voilà.
Yes. Ouais, qui est un gros projet, ça, d'ailleurs.
C'est ouais, c'est un gros truc qui va. Ouais. Enfin, je sais pas quand il va avoir lieu, mais ça a l'air d'être bien tendu. Mais donc, eux, ils luttent énormément pour ça en ce moment sur Liège, ça, c'est clair.
Ouais. Ok. Est-ce que tu peux nous parler un peu des actus, du coup, de ton collectif et de comment ça s'est passé par rapport au confinement aussi,
ouais. Ouais, donc, du coup, les Brigades d'Action Paysanne, notre collectif, il s'axe sur deux grands axes. Le premier, c'est de faire de l'aide directe sur le terrain pour les paysans et paysannes qui auraient besoin d'aide, que ce soit pour de la logistique, que ce soit pour clôturer des cueillettes, des récoltes avant qu'il y ait la mauvaise pluie qui débarque, pour aussi réparer des clôtures, aider à installer des enclos pour les chèvres. Enfin voilà, on est un peu un coup de main pour ceux qui n'ont pas assez de gens dans leur entourage, parce que le milieu paysan est de plus en plus isolé, et donc ils ont besoin d'avoir de l'aide, et nous on sert à ça. On aide surtout en fait, quand je dis paysan et paysanne, c'est parce qu'on n'est pas non plus en train de promouvoir l'agriculture conventionnelle, donc on va pas aller aider malheureusement pour eux les agriculteurs qui ont un troupeau de 200 vaches. On va pas trop aller dans ce créneau là, on va plus aider tous ceux qui font du petit, qui font du local, qui font du avec le moins de pesticides possible, même si c'est pas toujours évident. Et beaucoup de nimaculteurs, donc c'est des néos, des nouveaux installés qui sont pas issus de familles agricoles et qui en général n'ont pas l'entourage pour.
C'est ça.
Et donc nous on remplace un peu ce côté, on remplace l'absence d'entourage paysan pour nous apporter un peu un coup de main. Alors on n'est pas de la main d'œuvre gratuite, hein. On est clairement un coup de main plus militant. Voilà, nos chantiers se font. C'est très ponctuel, donc on va pas avoir un paysan qui nous appelle toutes les semaines. Ça, c'est une règle qui est importante pour nous. C'est qu'on ait un appui logistique au moment où il y a un gros truc, mais on n'est pas la main d'œuvre non plus.
Et du coup, comment ça se passe à ce niveau-là? Est-ce que les paysans et paysannes vous appellent un peu en dernière minute comme ça et qu'il faut une mobilisation assez rapide pour l'action
Oui, en fait, ils nous appellent parfois. Enfin, en général, c'est 4-5 jours avant de faire un chantier, mais donc c'est très à très court terme. Donc c'est ça qui est difficile pour nous, c'est qu'il faut beaucoup de réactivité. Et comme on a énormément de gens qui sont centrés surtout à Bruxelles, parfois c'est dur d'avoir des gens qui sont dispo dans les 4 jours à venir et qui en plus peuvent se déplacer jusque parfois loin en Wallonie. D'où le fait qu'on est en train de développer aussi des locales, une locale à Namur, une à Jambloux, une à Liège, et moi j'essaye de développer celle à Mons pour avoir justement des gens qui sont plus près du terrain et qui sont plus en contact direct aussi avec les paysans de la région, quoi. Donc voilà, tout ça c'est vraiment le volet chantier et soutien direct. On fait un autre soutien aussi qui est plus politique, c'est-à-dire qu'on va aussi pouvoir parler de plaidoyer, être présent sur les manifs, sur les événements importants de lutte pour le droit des paysans en fait. Donc voilà, je fais en même temps la petite pub pour les petites foires paysannes. Cet été, on aura des chantiers aussi avec les Brigades d'Action Paysanne pour installer des tonnelles et des trucs pour faire les petites foires sur les fermes, écoles, quoi. Je suis revenue sur les chantiers du coup, mais c'est pas grave.
Non, est-ce que le fait que votre action elle soit revendiquée comme une mobilisation militante, est-ce que ça implique que les paysans et paysannes soient eux-mêmes des militants et militantes ou pas?
C'est pas nécessaire qu'ils soient paysans paysannes, mais c'est clair que c'est via les réseaux de contact paysans et militants qui connaissent notre, notre réseau.
C'est des gens qui sont quand même engagés.
Ils sont engagés, oui. Oui, ça reste des gens qui sont quand même engagés, qui eux-mêmes revendiquent des choses. En général, les paysans, quand quelqu'un s'installe et n'a jamais fait d'agriculture ou quand quelqu'un va faire quelque chose qui sort un peu du cadre classique, donc que ce soit élever des chèvres ou faire du maraîchage ou faire un truc à petite échelle ou faire une ferme pédagogique, c'est un peu des exemples de gens chez qui on a déjà été, ces personnes-là sont déjà en marge de la démarche classique, sont en marge du conventionnel, donc eux-mêmes sont déjà militants par leur propre c'est valeur. Quoi. Donc c'est aussi pour ça que nous, ça a du sens d'aller les aider.
C'est ça.
Ouais, mais il n'est pas nécessaire qu'ils soient militants à 1000% pour qu'on aille chez eux. Quoi. On en a qui installent des petits trucs parce que ça leur fait plaisir et ils découvrent notre existence par des flyers, par du réseautage, des bénévoles qui passent. Allez, par exemple, il y en a qui achètent des paniers bio dans des fermes. Bah, ils connaissent les babes, bah, ils en parlent aux paysans et parfois c'est par justement par les consommateurs qu'ils apprennent notre existence. Quoi. Il y en a même qui ont déjà un appui par. Du coup, leurs mangeurs, ceux qui viennent régulièrement acheter chez eux, c'est déjà des gens qui viennent parfois faire des chantiers par eux-mêmes. Et ça nous est arrivé d'arriver sur un chantier où tu avais déjà 10 personnes qui font partie des mangeurs, et nous, on était 10 autres du réseau des BAP, et on était deux groupes à être là pour le chantier. Quoi.
Okay.
Ça fait combien de temps que vous faites ça
Les brigades
ouais.
Elle a. J'espère ne pas me tromper, mais je crois que ça a commencé en 2014-2015, mm-hmm. donc c'est quand même assez récent. C'est né un peu d'une coalition entre différents militants qui étaient chez FIAN International, FIAN Belgique, le CNCD, je crois, si je ne me trompe pas, la Rencontre des Continents et encore d'autres assos dont j'oublie le nom. Et c'est un peu toutes ces personnes-là qui se sont dit il y a un manque, il manque quelque chose de concret. On voit qu'il y a un problème pour aider les paysans à se développer. Pourtant, c'est quelque chose qu'on veut promouvoir, que ce soit pour le climat, pour le bien-être animal, pour une alimentation locale, etc. Ils se sont dit, qu'est-ce qu'on peut apporter nous en tant qu'acteurs des associations. Et ils se sont dit, ok, ce qui manque, c'est peut-être d'avoir un appui logistique avec des gens pour venir aider sur le terrain. Et donc, ils ont créé comme ça les brigades. C'est comme ça que ça a été créé. Quoi. Okay. Voilà. On dépend donc, ouais, on dépend de FIAN et de Quinoa, l'association.
FIAN, du coup, c'est un acronyme ou c'est...
Ouais, alors, FIAN, c'est... Ouf. Food... Ah, je ne sais plus. Ah, faudrait demander à Wikipédia, ça je suis vraiment désolée.
On ira le chercher, y'a pas de soucis.
Ouais.
Pas de soucis. Mais du coup, peut-être, est-ce que t'as encore des questions?
Moi non, pas sur le moment.
Peut-être pour clôturer, comme je te le disais tout à l'heure, je vais écrire un slam du coup en m'inspirant un peu de ce qui se passe dans le village de Possible. Et je voulais savoir si par rapport, voilà, par rapport à ces mobilisations dont tu parlais, à ces aides, à ces paysans et paysannes, est-ce que tu aurais des... un ou plusieurs mots-clés, ainsi qu'une question qui résumerait ou synthétiserait un peu tout ce que vous faites.
Oh wow. Oh là là, c'est dur. Des mots-clés.
Ouais.
Des mots-clés. Attends, sorry, parce que j'ai des slogans en tête, du coup j'ai pas
dit. Ah mais un slogan, c'est cool aussi, hein.
Ok, en gros... Oh putain, merde.
Ressenti, je sais
pas. Ouais, je vais lâcher des trucs un peu au hasard.
Ouais, quoi, franchement, ça a pas besoin d'être genre super précis.
Ouais, mais en gros, pas d'avenir sans les paysans, pas de souveraineté alimentaire sans les paysans.
C'est quoi la souveraineté alimentaire?
La souveraineté alimentaire, c'est avoir le, entre guillemets, le pouvoir sur ce qu'on mange,
ouais.
Sur la quantité, sur la qualité.
Ouais.
Et à savoir une autonomie en fait alimentaire. Donc un pays qui est souverain dans son alimentation, c'est un pays qui sait se subvenir, à sa population pour ouais. l'alimentation.
Et qui arrive à produire localement pour sa population. Quoi.
Ouais, c'est le principe. Si t'es un pays souverain au niveau alimentaire, t'as pas besoin d'importer. Et t'as ouais. pas besoin d'exporter. Et c'est un peu l'une des luttes principales de tout le mouvement, là je parle au nom complet mm-hmm. dans lequel se trouve les BAP, mais le RESAP, qui est le réseau de soutien aux agricultures paysannes, c'est ça l'objectif, c'est la souveraineté alimentaire pour mm-hmm. la Belgique, mais aussi pour les autres pays.
Est-ce que les dimensions d'import et d'export, qui doivent être, du coup, si je le comprends bien, limitées pour pouvoir atteindre une souveraineté alimentaire, est-ce que vous mettez ça en relation aussi avec d'autres thématiques telles que problèmes sociétaux tels que la migration par exemple.
Ouais.
Parce que finalement au niveau des dynamiques, il y a quelque chose d'assez similaire de qui rentre, qui sort.
Ouais.
Est-ce qu'il y a une réflexion qui est parallèle avec d'autres luttes?
Oui, oui, clairement. L'idée, c'est que, bon, c'est très à la mode le mot inclusif, mais avant que ce mot n'existe, on disait déjà que l'idée, c'est d'être inclusif. C'est que si on est pour la souveraineté alimentaire en Belgique, c'est aussi pour que les autres pays ne soient plus obligés de produire pour l'importation chez nous, qu'eux-mêmes ne doivent pas vivre de des importations qui viennent depuis chez nous. Voilà, on a énormément de contacts avec des chercheurs ou des sociologues d'université, mais qui travaillent beaucoup sur l'accaparement des terres. Parce que si on avait une souveraineté alimentaire en Belgique, on ne pourrait plus accaparer les terres dans d'autres pays. Il faut savoir aussi que la Belgique a des terres accaparées par d'autres pays. Enfin, il y a énormément, au niveau mondial, il y a des accaparements de terres, il y a des accaparements de ressources, que ce soit l'eau, que ce soit les semences, les graines, etc. Il y a aussi tout ce qui est on est quand même en lien avec les zapatistes par exemple, qui luttent pour garder leurs terres et garder leur droit de produire et leur droit de manger ce qu'ils veulent, plutôt que d'avoir des industries qui viennent choper leurs terres et les buter, parce que c'est aussi ce qui se passe, c'est qu'il y a énormément de massacres de paysans pour récupérer leurs terres. Donc on est aussi dans toutes ces luttes là et mine de rien, on se rend bien compte que les maladies, pas que cette pandémie-ci, mais toutes les autres maladies qu'il y a déjà eu dans le passé liées à l'agriculture, c'est aussi lié à l'industrie,
sont liées à ça aussi, quoi.
L'agriculture industrielle. Donc, voilà. Je pense que partir de l'alimentation et de l'agriculture, ça nous refait de toute façon aller sur les droits généraux de jouir d'un bien, de jouir d'une terre, de pouvoir manger à sa faim, dormir à sa faim, mais aussi de pouvoir avoir un revenu correct. Et de ne plus être dépendant des importations et exportations.
Enfin, ouais, d'accord. D'un autre côté, tu vois, la question que je me posais, c'était pour qu'il y ait une souveraineté alimentaire, ça c'est une chose, que ce soit par ailleurs inclusive, ça nécessite quand même quelque part que la souveraineté alimentaire, elle soit pas à 100% quelque part. Dans le sens où, par exemple, des familles qui sont d'origine marocaine, qui sont d'origine de plein d'autres pays du monde, qui vivent en Belgique, qui ont leur système alimentaire qui reste très présent et qui vont dans des magasins très spécifiques ici en Belgique. Voilà, ça nécessite. Enfin voilà, je me pose la question et je te la pose. Cette question de souveraineté alimentaire, je suppose, ne doit pas non plus rimer avec un exclusivisme
Par rapport à l'extérieur. Oui, des autres cultures. Oui, je pense que c'est un point très important. C'est une très bonne question en fait, ce point-là. L'idée, c'est surtout d'être vraiment de faire en sorte qu'il n'y ait plus ce gros truc d'industrie. Donc, c'est pas non plus empêcher un échange entre un pays et un autre, c'est plus empêcher la manière dont ça se fait. Par exemple, là, je ne m'y connais pas énormément en production qui viennent par exemple de la Méditerranée ou du Maghreb, mais bouffer que du belge en hiver, t'es pour des patates et des choux, c'est un peu déprimant, quoi. Donc, il y a quand même des échanges qui se font entre producteurs. Alors, c'est pas toujours très très développé, mais il y a des réseaux d'échanges entre producteurs d'Italie, d'Espagne avec ceux de Belgique, et qui ont quand même un revenu correct. On n'est pas sur les serres de plastique dans le sud de l'Espagne, on est quand même sur des paysans qui font des échanges entre eux.
C'est ça.
Et de manière à fournir.
C'est plutôt des plus petites productions,
c'est ça,
qui restent assez locales et qui
restent à échelle humaine, quoi.
Ouais, c'est ça.
À échelle humaine. Donc, je pense qu'effectivement, pour les populations qui veulent avoir un régime alimentaire qui est différent de celui. Sur base de ce qu'on produit en Belgique, c'est pas non plus impossible avec la souveraineté alimentaire. Ils ont déjà eux-mêmes leur propre réseau, leur propre manière d'acheminer les choses. Ils sont pas que dans l'industrie, mais l'industrie alimentaire a comme envahi tous les créneaux, y compris le leur. Ça c'est important effectivement de revenir sur aussi la possibilité pour les gens qui ont un régime différent, quoi. Clairement.
Ok. Génial.
Intéressant.
Ouais, de ouf.
Avec plaisir. Contente que ça passe.